Mes frères et sœurs, une bonne nouvelle.
Vous la voulez ?
Jésus revient.
Oui.
Vous y croyez ?
Oui.
Chantez-le avec moi. Bientôt, très bientôt, nous verrons le roi des rois. Bientôt,
nous verrons le roi des rois.
Oui, bientôt, très bientôt, nous verrons le roi des rois.
Alléluia,
nous verrons le roi des rois. Un petit peu plus nerveux, je me souviens qu'à Chicago, avec les frères de l'église de Harlem, quand ils ont chanté « Bientôt, très bientôt, nous verrons le roi des rois », j'avais une sœur qui était en face de moi, très, très, très large, the big sister, qui disait « Oh oui !» Je ne vous demande pas de dire pareil, mais encore une fois, « Bientôt, très bientôt, nous verrons le roi. » Alléluia, encore. Alléluia! Nous verrons le roi des rois.
Alléluia! Alléluia!
Nous verrons le roi des rois. Et savez-vous, plus de pleurs là-haut quand nous verrons le roi des rois. Plus de pleurs là-haut quand nous verrons le roi des rois. Plus de pleurs là-haut quand nous verrons le roi des rois. Alléluia, alléluia, nous verrons le roi des rois. Que ceux qui y croient disent amen.
Amen.
Mes frères et sœurs, vous est-il arrivé dans la vie depuis que vous êtes sur la terre des hommes de chercher vos clés? Qui peut dire, monsieur le pasteur, je n'ai jamais cherché une seule fois mes clés? Faites attention, ça peut vous arriver aujourd'hui. On a tous cherché les clés. Et on se retrouve stupide, n'est-ce pas? Quand on est devant la porte de la maison, il y a une phrase qui sort de notre cœur. Mes clés! Si vous êtes marié, vous dites à votre mari, t'as pas vu mes clés? Et lui dira, mais non, c'est toi qui les as. Bref, c'est pas évident de se trouver, non. On se trouve bête, hein, devant une porte sans clé, devant une voiture sans clé. Mais le plus dramatique, mes frères et sœurs, c'est dans la vie chrétienne perdre ses clés. Parce que le peuple juif, il marchait sur la terre en direction d'une terre qu'on appelait la terre promise. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Et nous, mes frères et sœurs, la différence avec eux, c'est que nous ne marchons pas vers la terre promise, nous marchons vers le ciel promis. Nous marchons vers le ciel promis. Nous savons que nous avons, par la grâce de Dieu, une place qui nous est réservée et une propriété qui a été construite par Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai?
Oui.
Alors on y va. Je voudrais vous proposer une lecture dans le livre de Josué où le peuple d'Israël s'est retrouvé devant une situation où il n'avait pas de clé pour entrer. Près de la porte, près du pays que Dieu leur a donné, ils ne pouvaient pas rentrer. Lisons leur histoire, un extrait. Josué, chapitre 3, verset 1er. 2 millions de Juifs environ ont vécu 40 ans dans le désert. Ouais. Et au bout de 40 ans, voici ce qui se passe au chapitre 3 du livre de Josué. Le livre de Josué se trouve dans l'Ancien Testament, après le livre du Deutéronome, chapitre 3, verset 1er. Jésus, Josué, il y a une similitude, c'est pour ça que je souligne. Jésus, Josué, mais Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, et ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Quelle belle soirée! Demain, fini le désert, demain, le pays que Dieu nous a promis et qu'on attend depuis 40 ans. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Ils donnèrent cet ordre au peuple, Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, c'est-à-dire 1000 kilomètres. 1000 mètres, pardon, décidément. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, spontanément ? Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu d'eux. Alors, on va lire un autre petit passage, si vous voulez, pour finir. Ils arrivent au verset 15, toujours dans le même chapitre. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, ce fameux lendemain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Arrêtons là la lecture pour quelques instants, si vous le voulez bien. Mes frères et sœurs, mettons-nous à la place de ces gens qui depuis 40 ans, tournent dans le désert, se basant sur une promesse que Dieu, un jour, leur a donné un pays où coule le lait et le miel. Ça fait 40 ans. Il y en a qui sont nés, il y en a qui sont morts. Ils attendent cela, et puis, voici la bonne nouvelle, Josué leur dit, sanctifiez-vous, car demain, Dieu va faire des prodiges au milieu de vous. Mettez-vous à la place de ces gens-là, de ces Juifs, pleins d'espoir. Enfin, on va pouvoir goûter les bénédictions que Dieu nous a réservées. Et savez-vous qu'au moment où ils se trouvent devant le Jourdain pour le traverser, il y a un problème. Mes frères et sœurs, si vous avez été en Israël, il y en a certainement qui ont été en Israël. Vous avez remarqué comme moi que le Jourdain, en temps normal, n'a pas grand-chose par rapport à la Seine, en temps normal. C'est une belle rivière, entre 28 et 30 mètres de large, profond, entre 1 mètre, entre 90, d'après notre guide, et 1,50 m maximum, habituellement c'est comme ça. Eh bien, ne trouvez-vous pas étrange, mes frères et sœurs, que le peuple d'Israël, après 40 ans, Dieu lui dit de passer le Jourdain le jour où le Jourdain déborde, c'est-à-dire le plus mauvais moment de l'année. Car au moment où ils vont passer le Jourdain, c'est la saison de la moisson. Or, c'est mon guide qui me disait à l'époque, lorsque nous étions, et il nous est dit qu'à ce moment-là, tenez-vous bien, mes frères et sœurs, le Jourdain était un peu plus grand. Il est large, non plus de 30 mètres, mais de 1,5 km. C'est-à-dire qu'il arrose la plaine et la plaine devient un marais. Donc au moment où le Jourdain est le plus large et en même temps au milieu le plus profond, 3 mètres et un peu plus, c'est à ce moment-là que Dieu leur dit, vous allez passer de l'autre côté. Vous ne trouvez pas étrange que Dieu les situe dans cette position-là? Et nous les comprenons s'ils ont murmuré en disant, écoute, Seigneur, c'est le mauvais moment, c'est la mauvaise heure, et puis, oui, comme le dit le pasteur derrière moi qui nous souffle, merci Claude, comment, avec quels moyens pouvons-nous traverser le fleuve? 1,5 km. Alors, certainement, il devait y avoir des ingénieurs chez eux. Ils disaient, oui, mais on n'a pas de pont. On ne peut pas faire de pont. On n'a pas de bois. On n'a pas d'outils. On n'a rien. On n'a pas de moyens. C'est une chose impossible. Et il arrive, mes frères et sœurs, que Dieu, dans notre vie, permette que nous passions dans des situations impossibles. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui l'a fait, vous allez voir pourquoi. Et ceci pour vous dire que si ce matin ou dans la semaine, plusieurs d'entre nous, mes frères et sœurs, vous vous trouvez devant une situation impossible, ne pensez pas que c'est forcément Satan, mais parce que peut-être que Dieu a quelque chose à dire, quelque chose d'important. Le peuple est bloqué parce que c'est pas le moment, humainement parlant. Mais le temps de Dieu et notre temps sont tout à fait différents. Et ce qui est admirable dans ce texte, si je le regarde, c'est que, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen ? Ils ont deux choses comme moyen. Ils ont une promesse, Dieu dit, passez de l'autre côté. Et puis, ils ont un souvenir. Oui, c'est vrai, il y a 40 ans, tu te souviens, les vieux nous expliquaient qu'il y a 40 ans, les juifs qui se parlent pas, il y a 40 ans, ils ont passé la mer Rouge, mais c'était il y a 40 ans. Et des fois, dans nos assemblées, on entend ça, les gens qui disent, oui, mais du temps d'eux, où il y a 40 ans, c'était ceci et cela. Puis les autres, ils disent, oui, mais aujourd'hui, on voit rien. Mes frères et sœurs, ce peuple qui attendait une terre promise se retrouve bloqué par un fleuve devant lequel ils ne peuvent pas traverser. Et je voudrais vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Il y a ce matin parmi nous, ce n'est pas un don de révélation, c'est une conviction profonde, des frères et sœurs qui se trouvent dans des situations bloquées et qui n'ont pas de moyens de voir cette situation s'ouvrir. Au contraire, la situation dans laquelle tu es, ma sœur ou mon frère, se complique de plus en plus, elle est fermée. Elle est barricadée et tu ne trouves pas de moyen de pouvoir t'en sortir. Car, si les Juifs s'attendent à aller là où Dieu leur avait promis, mes frères et sœurs, il y avait non seulement le Jourdain, mais s'ils levaient un peu les yeux après le Jourdain, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des murs infranchissables de Jéricho. S'ils regardaient derrière les murs, qu'est-ce qu'il y avait ? Des géants. Ils ne faisaient pas de cadeaux. Donc, chaque fois qu'ils regardaient devant, ils voyaient des impossibilités. Mais, mes frères et sœurs, notre force n'est pas de regarder devant, de regarder en haut. Cherchez les choses d'en haut. Et si nous cherchons les choses d'en haut de tout notre cœur, les choses d'en bas diminueront. Il y a un chant qui nous dit souvent, je crois que c'est les Sadducéens qui l'ont créé, qui disait « Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. » C'est vrai ça? Alors voyez-vous, donc le peuple se trouve là, bloqué, dans une situation sans possibilité et sans force pour pouvoir entrer et aller de l'autre côté. C'est à ce moment-là que Dieu va leur donner trois clés. Trois clés. Comment vont-ils faire pour passer ? Question, à votre avis. Vous êtes devant une porte, devant votre porte, vous êtes devant une promesse que Dieu vous a faite, vous allez faire un heureux mariage, vous allez avoir beaucoup d'enfants, vous allez avoir pas trop d'enfants, vous allez avoir un beau travail, vous allez être au chômage, je ne sais pas. Vous êtes devant une situation qui ne se débloque pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez. Et vous ne trouvez pas de clé. Dieu vous dit, moi j'en ai trois. Vous les voulez ? Alors quelle est la première clé que nous avons ici ? Mes frères et sœurs, regardez bien, se trouve le verset 1 et 2. L'Écriture nous dit, ils arrivent là et ils sont prêts à passer de l'autre côté. Seulement, au lieu de passer tout de suite, ils attendent encore 3 jours. C'est le verbe attendre. La première clé pour que Dieu agisse dans nos vies, c'est savoir attendre. Mais mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ce qui est difficile pour un être humain, c'est de savoir attendre. Allez dans un supermarché un samedi, je sais ce que vous allez faire en rentrant, y a-t-il beaucoup de monde à la caisse ? Attendre. Vous allez chez le médecin, pour le médecin, et vous ouvrez la salle d'attente. Son nom porte bien. et vous voyez toutes les chaises remplies, des gens debout. Vous dites, oh là là, j'avais rendez-vous à 3 heures et il y a tout ce monde-là devant moi. Oh là là, attendre, c'est pas agréable d'attendre. Or, la première clé pour que Dieu agisse dans nos vies, mes frères et sœurs, c'est savoir attendre. L'Écriture nous le dit d'ailleurs, attends-toi à l'Éternel. Nous n'aimons pas attendre. Savez-vous pourquoi Dieu nous fait attendre? Oui, oui. Regardez, vous avez un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Job, il a souffert pas mal. Et j'ai relevé cette phrase. Savez-vous ce qu'il dit Job au chapitre 6 et au verset 11? Il dit ceci. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Pourquoi j'attends? Quand Samuel a rencontré Saül pour qu'il devienne roi, Samuel a dit à Saül, « Arrête et écoute la parole que j'ai à te donner. » Dieu permet des fois que nous sommes arrêtés pour entendre sa voix. Mes frères et sœurs, nous avons comme principe attendre pour entendre. J'attends pour entendre. Le Seigneur n'a pas besoin de courir derrière moi, mais il dit « Attends, calme-toi ». Vous savez que Saül, il était complètement perdu et il cherchait des ânesses de son père. Et le prophète lui dit « Mais ça, c'est pas important, les ânesses, ça y est, c'est rentré, mais arrête-toi, j'ai quelque chose à te dire ». Et ce matin, mes frères et sœurs, avant de quitter cette assemblée, Dieu a quelque chose à te dire. Ne jette pas tout, ne te décourage pas, mais prends la décision d'attendre Dieu, et il ne sera jamais en retard. S'il t'a dit d'attendre, c'est parce qu'il va venir. Et si je lis attentivement mon écriture, j'arrive à comprendre qu'il est bon d'attendre. C'est pas les lamentations de Jérémie qui disent « Il est bon d'attendre en silence le secours ». Les frères et sœurs, il est bon d'attendre sans dire en silence le secours de Dieu. Si c'est bon, c'est qu'il y a quelque chose qui va nous être donné. Quand Jésus est ressuscité, et avant de monter au ciel, qu'a-t-il dit? Il a dit à ses apôtres, écoutez, je vous ai dit d'aller dans le monde entier, mais restez à Jérusalem et attendez. L'Écriture nous dit que dans les actes des apôtres, ils ont attendu ce que le Père avait promis. Et le Père avait promis le Saint-Esprit. Et quand le Père promet, il tient sa promesse. Mais il a fallu que l'Église commence par apprendre à attendre. Mes frères et sœurs, avec nos enfants, ce n'est pas toujours facile de leur dire « Attends ». C'est facile? Non. Et Dieu a le même problème avec nous. Si je regarde encore ma Bible, j'apprends que pourquoi Dieu nous fait-il attendre? Je vous ai dit tout à l'heure pour que nous puissions entendre et comprendre, mais aussi c'est parce que Dieu veut travailler avec nous. Mais pour que Dieu travaille avec nous, il faut d'abord que Dieu travaille en nous. Et si Dieu travaille en nous, il pourra travailler avec nous. Et s'il travaille avec nous, il sera pour nous. Et si Dieu est pour nous, voilà, vous avez trouvé. Donc l'attente, cette patience de la foi, va permettre au Seigneur, dans sa grâce, de se glorifier et de se manifester avec force. L'Écriture nous dit qu'ils étaient là devant un fleuve et très, très large, et voici ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Attends, car l'Éternel, demain, va faire des prodiges. Mes frères et sœurs, ce matin, vous qui vous trouvez dans une situation familiale, morale, physique ou de santé, bloquée, vous ne voyez pas de porte qui s'ouvre, le Seigneur m'a dit de vous dire « Attends, attends ». Et si Dieu te dit « Attends », ce n'est pas pour éviter, c'est parce qu'il va faire quelque chose. L'Écriture nous dit « Attends-toi, l'Éternel. Attendez-vous à Dieu, sanctifie-toi, car demain, mes frères et sœurs, ne vous appartient pas, ni à moi, ni à vous. Demain appartient à Dieu. Le passé ne m'appartient même plus, le passé, puisqu'il est parti. La seule chose qui m'appartient, la seule chose qui m'appartient, c'est la seconde de vie. C'est la seule chose que j'ai. Mais demain ne m'appartient pas. Mais je bénis Dieu, parce que qui c'est qui vit demain ? Parce que c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui c'est qui écrit l'avenir ? Le bélier ? Le capricorne ? La vierge ? Qu'est-ce qui écrit l'avenir ? C'est Dieu. Il est Dieu et nous ne sommes pas Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, que ce matin, nous puissions dire, Seigneur, oui, je veux entendre ta voix. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai besoin d'entendre ta voix. Agneau, messager, je veux entendre ta voix. Le langage de la croix, agneau. Dites-le. Je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Alors, mes frères et sœurs, dites. Vous pensez, écoutez, pasteur, vous avez dit attendre, bah, mais ça, on entend, attendre quoi ? Sanctifiez-vous. Mais ça veut dire quoi, sanctifier ? Mes frères et sœurs, si vous lisez bien le chapitre 3, vous allez vous apercevoir d'un événement qui passe inaperçu. L'arche. Quand Israël était dans le désert, l'arche, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'arche de l'Alliance, était où ? Devant, derrière ou au milieu ? Regardez bien. Dans le désert, elle était où ? Oui, hein, le pasteur, c'est incollable, le pasteur gentil. L'arche de l'Alliance était au milieu. Et là, maintenant, cette arche ne sera plus au milieu, mais devant. Et se sanctifier, mes frères et sœurs, c'est avoir les yeux fixés uniquement sur Jésus. Jésus est devant. Il est le premier. Il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je veux donc, Seigneur, que mes yeux soient sur toi. Et se sanctifier, mes frères et sœurs, c'est cesser de se regarder, c'est cesser de juger les autres, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et si tu as les yeux fixés sur Jésus, la sainteté de Jésus, la pureté de son sang, la force de sa lumière sanctifiera ton cœur. Car pour nous, la sanctification, c'est la personne même de Jésus en nous. Plus nous, mais lui qui vit. Et l'Écriture nous enseigne que l'arche de l'Alliance, eh bien là, elle est devant, et vous allez voir pourquoi, elle va conduire le peuple d'Israël dans la direction. Et si vous lisez ce texte de Josué, chapitre 3, vous noterez neuf fois, il est écrit, vous regarderez l'arche. Donc voilà ce que Dieu a à nous dire ce matin. Dieu nous dit, attends, j'ai quelque chose à te dire. Sanctifie-toi. C'est-à-dire, au lieu de regarder les moyens, les combines, les choses des uns et des autres, fixe les yeux sur Jésus. L'Écriture nous dit, fixez les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc, s'il y a à attendre un message, le message, le voilà, regardez vers Jésus. Et c'est là la deuxième clé. La première clé, c'est d'entendre Dieu nous dire, tu vas te sanctifier en regardant Jésus. Et la deuxième clé, c'est regarder l'arche. C'est ce que Dieu dit. Chapitre 3. Regardez l'arche. Quand vous verrez l'arche, quand ils marcheront, quand les sacrificateurs s'approcheront, quand ils mettront leurs pieds dans la rivière, quand vous verrez ces choses, alors. Nous sommes donc non seulement appelés à attendre pour entendre, mais nous sommes aussi appelés à regarder pour garder. Regardez vers Jésus. L'arche de l'Alliance. Vous souvenez-vous, frères et sœurs,
ce qu'elle représentait. Il y avait dans l'Arche de l'Alliance, allez, on va travailler. Quelle est parmi vous la première chose qui vous a frappé? Dans l'Arche de l'Alliance, c'était un coffret qui était dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Les tables de la loi, c'est-à-dire les dix commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, il y avait la parole. Virgule. Après, la deuxième chose, il y avait une deuxième chose. De la manne. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? La manne, c'était la nourriture que le peuple d'Israël a eue pendant 40 ans dans le désert. Mais pourquoi elle s'appelle la manne? Et qu'est-ce que ça veut dire, manne? Non, ça ne veut pas dire manière, non, non. Les Juifs, quand ils l'ont vue, cette nourriture, ils ont dit, oui, qu'est-ce que c'est? Ceci, mes frères et sœurs, est important parce que manne est relié avec les dix commandements. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions, lorsque nous l'avons sous les yeux, nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Comprendre la parole de Dieu. Parce que bien souvent, on la comprend mal ou on lit superficiellement. Mais la manne nous rappelle cette question que devant la parole de Dieu, nous devons dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as à me dire avec ce verset-là? Et c'est capital pour la suite. La troisième chose qu'il y a dans l'arche, le bâton d'Aaron, un bâton sec, il avait repris la vie, il avait eu des feuilles, il a eu des fleurs et il a eu des fruits. La vie qui l'emporte sur la mort. Donc, la personne de Jésus, l'arche, la personne de Jésus, c'est avant tout la parole. C'est la parole comprise. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Et troisièmement, c'est la parole puissante de vie. Car Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Si bien que quand je suis dans la difficulté, que je regarde Jésus, je vois ces trois choses. La parole, la compréhension et béni soit Dieu, la puissance. C'est pour ça que Dieu dit à son peuple, fixez les yeux car demain je vais faire un prodige. Et le prodige aura lieu si tes yeux sont sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Il faut que tu apprennes cela, que tes yeux soient fixés sur l'arche. Les frères et sœurs, Satan des fois nous dit, oui mais tu sais, regarde un tel, oui tu as cette maladie mais... le Seigneur ne va pas te guérir. Regarde, un tel, il est mort. Regarde, une telle, elle a des difficultés. Non, tu pries pour tes enfants, mais non, ils ne se convertiront pas. Regarde, il y a même des enfants de pasteurs. Satan passe son temps à nous montrer tout ce qui est négatif. Mais nous passons notre temps à regarder ce qui est positif. Les yeux sur Jésus. Quand on le regarde, alors mes frères et sœurs, les choses sont possibles. Je vais vous donner vite un exemple. L'apôtre Pierre, avec toute sa souffrance, quand il a le courage de dire, en pleine tempête, « Seigneur, si c'est toi qui es là sur les eaux, ordonne que j'aille vers toi. » Eh bien, tant que Pierre a eu les yeux fixés sur Jésus, il était plus fort que le vent et plus fort que la mer déchaînée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu as les regards sur Jésus, Satan est terrassé. Quand tu as les regards sur Jésus, Satan est écrasé. Quand tu as les regards sur Jésus, Satan se sauve et s'enfuit, et toi, tu es vainqueur. Tant que Pierre a regardé Jésus, et quand il a cessé de regarder Jésus, et qu'il a regardé le vent, eh bien l'Écriture nous dit qu'il a commencé à couler, à s'enfoncer. Ainsi, je dois comprendre, mes frères et sœurs, que le regard sur Jésus va nourrir ma foi et faire de moi un vainqueur. Et par la grâce de Dieu, je pourrais avoir une pleine victoire. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit mais. Vous regarderez l'arche, mais il y aura entre l'arche et vous une distance, 900 mètres environ. Pourquoi? Pourquoi? Puisque nous disons Christ en nous. Ça veut dire. Bien, mes frères et sœurs, il faut nous rappeler que l'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, était visible par les hommes une fois par an dans le lieu très saint. Et Dieu veut rappeler à son peuple que nous ne devons pas traiter Dieu comme un copain, mais qu'il doit y avoir du respect. Lui est Dieu, moi je suis qu'un être humain, envers et contre tout. C'est vrai que des fois on aurait tendance à dire « Ah, mon papa !» Mais il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il règne sur des millions et des millions d'esprits dans le monde et dans les univers qui nous dépassent. Et s'il se présente à nous comme notre Père, mes frères et sœurs, il doit y avoir du respect. Même des fois dans notre façon de nous habiller. Moi, je suis toujours étonné de voir, pas ici parce que vous êtes bien, c'est parfait, mais il y a des gens, même des fois qui font chanter, qui sont habillés d'une façon, avec des jeans ouverts aux genoux. Évidemment, c'est parce que ce sont des hommes de prière, certainement, vous comprenez ? C'est pour ça que c'est ouvert. Alors, là, à ce moment-là, je ne dis rien. Mais quand vous avez sur un jean tout sale, avec des trous, et par-dessus tout, un petit pull avec « j'aime la bière », ça fait drôle quand même. Hein, ça fait drôle quand même. Et un jour, ce que je lui dis, je l'ai vu avec un jeune homme, je lui ai dit « écoute-moi, si demain, le président de la République t'invite à venir le voir, est-ce que tu viendrais comme ça ?» Ah, bien sûr que non. Alors, mes frères et sœurs, je sais bien que ce n'est pas dans l'habit que tout est à l'intérieur, mais nous devons nous approcher du Seigneur, les yeux fixés sur lui, en sachant qu'il est saint, trois fois saint, et je dois le respecter. Et si je le respecte, il me respecte. Et lui et moi et lui, par la grâce de Dieu et par Jésus-Christ, nous devenons un. Voyez-vous, ça c'est la deuxième clé. Savoir attendre pour entendre. Savoir regarder pour garder la victoire. Et la troisième chose. Eh bien, c'est écrit au verset 15. Vous le lirez chez vous. Elle est amusante, cette petite phrase. Quand vous verrez les sacrificateurs mettre leurs pieds dans l'eau, quand vous verrez leurs pieds mouillés. Oui, mes frères et sœurs, un chrétien vainqueur, c'est un chrétien qui sait se mouiller. C'est-à-dire s'engager, prendre des risques. Alors, bon, je vais prendre un exemple. Vous avez entendu parler de Naaman. Vous savez, ce général qui était lépreux, et à qui le prophète dit, tu veux guérir ta lèpre, plonge-toi dans le Jourdain et ça ira mieux. Alors, il n'a pas accepté. Tout de suite, il dit, bon, quand même, moi, avec toutes mes médailles, j'ai même plus besoin de boutons tellement j'ai des médailles partout. Naaman faisait penser, vous savez, à cet empereur africain qui avait un château pas loin de chez nous. Monsieur Bokassa, il était Bokassa. Bok a présenté toutes ses médailles partout. Il n'y avait plus de place. Hein. Et Naaman était comme ça. Alors, plongé dans le Jourdain, l'eau boueuse. Et mes frères et sœurs, quand il l'a fait, c'est pas la boue qui l'a guéri, c'est son obéissance et sa foi qui a honoré Dieu et il a été guéri. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, l'Écriture nous dit que je dois savoir attendre, je dois savoir regarder, troisièmement, pour savoir m'engager. M'engager. Parce que sinon, ma vie chrétienne va se dérouler, toute notre vie chrétienne va être, je désire tellement. Mais mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, Dieu veut changer nos désirs Et merci Claude. Dieu veut changer nos désirs en réalité profonde. Et si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'avance, eh bien l'Écriture nous dit que les eaux se sont ouvertes, car qui a ouvert les eaux? C'est Dieu. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur nous demande une chose, il est toujours arrivé avant nous. Il n'est jamais en retard, il est toujours avant. Et c'est quand nous avons compris cela, que s'il nous demande une chose, il est avant. Un exemple. L'Écriture nous parle d'un homme, il s'appelle Monsieur Gédéon. Ah, Gédéon. Lui aussi, il est devant des difficultés. Et l'Écriture nous dit qu'ils étaient très malheureux du temps de Gédéon. Et l'Écriture nous dit, Juge 6, alors vint l'ange de l'Éternel. Et regardez l'humour de Dieu. Il est écrit, l'ange de l'Éternel vint, il s'assit, il n'a pas parlé, l'ange de l'Éternel, il était là, il a regardé. Il a regardé le brave Gédéon qui était en pleine panique, qui se mélangeait les pieds entre l'huile et le vin, qui mettait le vin dans l'huile et l'huile dans le vin, enfin bref, il appelait tout à l'opposé. Et il n'a rien dit, l'ange de l'Éternel, mais il était là. Et l'ange de Dieu, ma sœur, mon frère, il est là. Prête-toi, même si tu sens rien, il regarde. Et puis, il ouvre la bouche, l'ange de l'Éternel, après avoir ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Salut à toi, triste zéro ! Pardon, excusez-moi. Salut à toi, vaillante héros ! Non, mais... Si Dieu disait ça, si Dieu m'avait dit ça, je dirais, Seigneur, tu te moques de moi. Vaillant héros, tu sais que je suis trouillard, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Salut à toi, vaillant héros. Parce que quand le Seigneur Jésus est là, quand il nous voit nous tourmenter, et nous abattre, il sait qu'il peut nous rendre vainqueurs. Il sait, mon frère, ma sœur, que ce matin, tu peux sortir du culte avec toutes les clés de la victoire. Et s'il faut que tu les prennes, il faut que tu l'acceptes. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Gédéon. Gédéon dit, ouais, l'Éternel est avec moi. Oui, les pasteurs, ils disent toujours ça. Dieu est avec nous. Mais, qu'est-ce qu'il dit Gédéon ? Mais, où sont les miracles qu'il y avait quand nous étions. Où sont les guérisons qu'il y avait? Où est la masse de gens qu'il y avait quand nous étions Place Blanche? Qu'est-ce que je raconte? Il y a des gens comme ça. Où sont les miracles que nos pères nous racontent? Mais ils sont toujours là, les miracles que nos pères nous racontent, mes frères et sœurs. Ce qui a changé, ce n'est pas les miracles ni Dieu, c'est nous qui changeons. Et si ce matin, nous voulons bien prendre la clé de la foi que le Seigneur nous tend, alors par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir découvrir une victoire tout à fait remarquable. Car, mes frères et sœurs, comme pour Gédéon, Dieu était déjà là avant la victoire et la grâce de Dieu lui a ouvert les yeux et ce jour-là, il a compris. Je priais ce matin et le verset que je vais vous donner, vraiment je l'ai reçu, peut-être pas pour tout le monde, mais au moins pour une grande partie. Le Seigneur me mettait dans mon cœur et me dit, Moïse, ce matin, dans l'église, il y aura des frères et des sœurs qui ont une grande souffrance. Et c'est à eux que tu parleras à la fin de ton message. Mais c'était net, hein. Je voulais vous dire ce qui est net. Des chrétiens et des chrétiennes qui ont une grande souffrance. Et tu leur donneras ce texte. Voulez-vous que je vous le donne sans faire? Tu veux? Dieu dit, je donnerai la référence après. Dieu dit à son peuple, oui mon peuple, il y a de l'espérance pour ton avenir. Écoutez bien, la promesse. Tes enfants éloignés reviendront. Et reviendront dans mon territoire. Je répète, voilà ce que le Seigneur m'a dit de dire à certains d'entre vous. Il y a de l'espérance pour ton avenir, tes enfants reviendront. Ma sœur, mon frère, une des plus grandes tristesses que tu as ce matin, c'est que tu es là tout seul, ou tout seul. Tes enfants reviendront. Ça veut dire qu'ils sont venus, tout petits, peut-être. Ils ont marché, et puis après, ils sont partis. Et Dieu te dit, tes enfants reviendront, tes enfants reviendront. Et en sortant du culte, dites, Seigneur, je crois que mes enfants vont revenir vers toi. Seigneur, je suis persuadé que ta parole va s'accomplir. Et peut-être qu'avant la fin de la semaine ou la fin du mois, peu importe, avant peu, la grâce de Dieu saura se manifester. Je voulais peut-être donner ce témoignage de cette sœur qui m'a toujours impressionné, qui est décédée à l'âge de 92 ans. Et qui a élevé son fils toute seule. Son fils s'est détaché de l'Évangile. Après avoir été baptisé, il a rejeté l'Évangile. Et puis il a dit à sa mère, si tu veux que je te visite, tu ne me parles plus de ton bon Dieu, ni de la Bible. C'est du mensonge. J'en veux plus. Je ne remettrai plus les pieds. Et c'est vrai. Au moins 35 ou 40 ans. n'a plus remis les pieds à l'église. Cette maman est tombée malade. Très malade. 91 ans. Je me rappelle l'avoir visité, elle me dit, j'ai eu toutes les promesses de Dieu. Il y a une promesse, et elle s'est mise à pleurer, elle m'a aimée, que Dieu m'a fait pour mon fils, que j'ai élevé dans l'évangile, qui a été dans des colonies de vacances, maintenant ne veut plus rien, elle me persécute. J'ai prié. Et elle me termine en disant, j'ai prié et je crois. Et elle ferme ses yeux et elle décède. Il y avait dans la chambre le numéro de téléphone pour la personne qui sera là, donc je trouve le numéro de téléphone à prévenir, et je trouve le numéro de son fils, et je lui dis, ta maman est décédée. Ah bon ? Il a eu un instant d'émotion. Ah bon, bon, je m'en occupe. Ça a passé une journée. Et la journée suivante, téléphone, elle me dit, pasteur, j'ai beaucoup de respect, mais vos bondieuseries et vos comédies et vos sermons, c'est du vent et c'est de l'air. Par respect pour ma mère, je viendrai à l'enterrement. Mais surtout, faites pas de sentiments, parce qu'à ce moment-là, je ferai un scandale. Je viendrai à l'enterrement, mais c'est la dernière fois. C'est la seule et dernière fois. J'ai promis à ma mère de ne plus jamais remettre les pieds. Voilà, monsieur le pasteur, à demain. Oh, chaud. Là, mes frères et sœurs, le jour de l'enterrement, j'ai eu les genoux qui se témoignaient d'affection. Le corps rentre, pompe funèbre arrive, et suit le seul fils, et personne d'autre que le fils. Il vient, il s'assoit, il me regarde, il s'assoit au premier rang, là, et il me fixe. Et je commence le service en disant, voilà, notre sœur est partie près du Seigneur, et elle m'a mis un cantique, elle aimerait qu'on chante, c'est « Christ est ma vie ». Christ, vous connaissez ce chant ? Christ est ma vie, il est. Christ. Mes chers amis, frères et sœurs, Dieu m'entend là. Au moment où l'Église a chanté « Christ est ma vie », le rebelle, le coléreux, s'est mis à pleurer profondément. Il a glissé de sa chaise et s'est mis à sangloter. On n'entendait plus que « Christ est ma vie ». Et depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, jusqu'à la mort, il n'a plus laissé une seule fois les réunions. La grâce de Dieu avait sauvé son cœur. Nous avons le même Dieu ce matin. Ma sœur, mon frère, ne baisse pas les bras. Ils reviendront. Si tu n'as pas les clés, moi je te la donne de la part du Seigneur. Attends. Regarde. Et crois. Et tu verras la gloire de Dieu.